Europe 1.
Mais d'abord, le journal de 8h sur Europe 1. Fanny Marceau, bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Terminus, tout le monde descend. Après 6 mois de bras de fer, l'épisode de la réforme des retraites semble toucher à sa fin. Essoufflement dans la rue, seulement 281 000 manifestants hier selon la police, 900 000 selon la CGT. Et nouveau barrage à l'Assemblée nationale, la majorité veut à tout prix empêcher le vote sur l'abrogation de la réforme proposée par le groupe Liotte. La présidente du Palais Bourbon, Yaël Braun-Pivet, pourrait donc dégainer aujourd'hui l'article 40 qui rendrait ce texte irrecevable, Alexis de la Fontaine.
Oui, Yaël Braun-Pivet doit rendre sa décision aujourd'hui. Jeudi dernier, sur Europe 1, elle n'a laissé que peu de doutes sur sa position.
L'article 1, l'abrogation de la réforme des retraites, est inconstitutionnel en ce qu'il est constitutif d'une charge.
Logiquement.
Donc, maintenant, je regarderai l'amendement formellement quand il sera déposé, s'il est déposé. Mais effectivement, moi, je suis très cohérente dans mes propos et dans mes actes.
Le propos est clair, mais depuis, la situation pourrait avoir évolué. Un député de la majorité l'affirme, le gouvernement préfère finalement utiliser le vote bloqué plutôt que l'article 40. Mais ce n'est pas la seule stratégie imaginée par la majorité. Ces derniers jours, les députés macronistes ont déposé des dizaines d'amendements d'obstruction, changeant simplement un mot ou deux à chaque fois. Bref, le gouvernement et la majorité font tout pour que ce vote n'ait jamais lieu.
Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Le débat sur cette proposition de loi du groupe Liotte promet d'être tendu demain. La semaine dernière, les noms d'oiseaux avaient fusé en commission, la gauche accusant les macronistes notamment de magouilles et de dérives mafieuses.
8h03, une bombe environnementale de destruction massive. C'est ainsi que Volodymyr Zelensky décrit l'explosion du barrage de Nova Karovka dans le sud de l'Ukraine.
18 millions de mètres cubes d'eau sont venus grossir d'un coup d'un seul le fleuve Dniepr jusqu'à la mer Noire, la région de Kherson noyée, et ce n'est qu'un début. Le pic des inondations est attendu ce matin. Pour l'Ukraine, les conséquences sont très lourdes, Nicolas Tonev, tant d'un point de vue économique que militaire.
Oui, économiquement, ce sont des villes et villages évacués, des milliers d'hectares de terres agricoles submergées, des installations industrielles mises hors service, le refroidissement de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia plus compliqué et surtout la perte d'une ressource électrique énorme en temps de guerre pour l'Ukraine, environ 335 mégawatts, c'est l'équivalent d'un petit réacteur nucléaire. Et puis il reste à ajouter le coût de la reconstruction des installations après-guerre. Militairement, le handicap pour Kiev, c'est gérer en plus du conflit des évacuations à grande échelle. Ensuite, à supposer que l'Ukraine prévoit de mener des attaques au sud du barrage vers l'est, les inondations empêchent des mouvements blindés de grande ampleur. L'élargissement du Dniepr noie quelques positions russes mais rend son franchissement quasiment impossible. Le barrage était le dernier point de passage routier et ferroviaire intact de la région entre les deux rives du fleuve. Sa rupture contrarie donc une éventuelle percée ukrainienne.
Nicolas Tonev, spécialiste européen de l'Ukraine.
Retour en France où la famille de la jeune Lindsay qui s'est suicidée va rencontrer Brigitte Macron cet après-midi.
Oui, la première dame leur paraîtra-t-elle plus sincère que le ministre de l'Éducation nationale? Lundi soir, ils étaient repartis déçus de leur échange avec Pap Ndiaye. Lindsay, 13 ans, victime de harcèlement scolaire, a mis fin à ses jours le 12 mai dernier, tout comme Lucas dans les Vosges en janvier. Un fléau dont Elisabeth Borne veut faire une priorité absolue.
Et oui, la première ministre veut notamment élargir le programme phare, dispositif déjà testé dans plusieurs collèges où des référents à harcèlement et des élèves sentinelles sont nommés.
Oui, c'est le cas par exemple dans l'établissement de Suzanne, élève de 5e en Seine-Saint-Denis. L'an dernier, elle faisait partie des 40% de Français victimes de harcèlement scolaire, régulièrement frappés par ses camarades. Elle témoigne sur Europe 1.
J'étais harcelée quand j'étais en 6e. Le truc, c'est que c'était pas des grandes frappes, c'était juste, c'était pas très gentil. Des fois, elles y allaient de plus en plus fort. Moi, j'allais voir la CPE, elle les convoquait, les filles. Soit elles avaient des sanctions, soit elles n'en avaient pas. Et quand elles en avaient, bah, elles recommençaient et de plus en plus fort. Et bah, en fait, ça a aggravé les choses. J'avais peur et tout. Quand je rentrais, bah, je pleurais. Pendant toute l'année, il n'y a pas eu un moment où, genre, j'étais bien. À chaque fois, ça enchaînait et un jour, elle me parlait, un jour, elle ne me parlait plus. Donc, je savais pas ce qui se passait. Pendant vraiment peut-être un petit mois, c'était assez grave. Genre, je m'en rendais pas forcément compte, mais à chaque fois, la plupart du temps, bah, je rendais copie blanche. J'arrivais pas à me concentrer parce qu'il y avait toutes les images qui revenaient dans ma tête.
Et comment ça s'est résolu?
Les filles, elles se sont, je sais pas, il y a eu un peu un déclic. Elles se sont lassées et en même temps, elles ont remarqué que ça servait à rien et que ça changeait rien. J'ai laissé passer et au final, ça me fait plus rien d'y penser.
Le témoignage de Suzanne au micro Europe 1 de Louise Salé.
Faire baisser le chômage, faciliter l'accès à l'emploi, promesse de campagne qu'Emmanuel Macron veut concrétiser.
Et le projet de loi plein emploi est présenté ce matin au Conseil des ministres. Il prévoit la création de France Travail, une sorte de super pôle emploi, le conditionnement du RSA à 15 ou 20 heures d'activité ou encore la création de 200 000 nouvelles places en crèche pour simplifier la vie des parents travailleurs. Son ambition, c'est aussi et surtout d'atteindre le plein emploi d'ici 2027. Alors qu'est-ce que c'est le plein emploi? C'est le tuto de la rédaction d'Europe, Margot Faudéré.
Tout d'abord, le plein emploi, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de chômeurs. Le terme désigne un niveau d'emploi idéal dans une économie. En clair, on l'atteint quand un maximum de candidats et d'entreprises se mettent d'accord sur les compétences requises, la rémunération ou encore la zone géographique du poste. En France, le plein emploi se situe aux alentours de 5% de chômage et c'est très difficile d'être en dessous puisqu'il y a toujours des employés qui quittent leur poste ou des entreprises qui font faillite et donc des individus sans travail. D'ailleurs, même si ça peut paraître étonnant, une économie sans chômage n'est pas souhaitable. Ce serait même dangereux, car plus les candidats sont rares, plus les entreprises augmentent les salaires pour les attirer. La conséquence, c'est une économie en surchauffe et l'augmentation des prix, donc le retour de l'inflation.
Margot Faudéré.
Le tuto de la rédaction d'Europe 1, la notice de l'info, tous les matins, dans votre journal de 8h.
Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h07.
Et ils nous protègent au péril de leur vie. Chaque année, 15 000 policiers sont blessés dans l'exercice de leurs fonctions.
Et après, comment sont-ils pris en charge? Depuis 2018, la mission d'accompagnement des blessés de la police nationale leur apporte un soutien administratif, médical, psychologique, avec notamment des séjours de reconstruction. Exemple, à Trèveneuc, c'est dans les Côtes d'Armor, un village vacances accueille cette semaine 10 policiers et CRS. C'est la première fois qu'un journaliste peut accéder à ce centre. Reportage exclusif pour Europe 1 de Clément Barguin.
Quelques jours au bord de la mer pour s'évader, échanger et même s'initier à de nouveaux sports, comme ici un cours de golf. Parmi la dizaine de policiers et CRS accueillis dans ce village vacances, Émilie, 31 ans.
J'ai quand même été très très amochée, tout le côté droit, j'étais défigurée. J'ai une artère qui est sectionnée en deux à l'arrière de la tête.
Percutée par un chauffard sous l'emprise de la drogue alors qu'elle circulait dans un véhicule de police.
Ça a été pendant plusieurs mois très compliqué. On n'est pas comme avant, c'est sûr, hein. On a toujours ce traumatisme qui est là.
Tous ici ont été gravement blessés en intervention avec parfois la difficulté d'en parler, comme pour Grégory.
L'image du policier, c'est celui qui doit être à l'épreuve de tout ce qui peut lui arriver dans sa carrière. On reste des êtres humains comme les autres. Et un séjour comme ça, ça me permet d'extérioriser.
Des séjours de reconstruction supervisés par Nathalie Breteau, chef de la mission d'accompagnement des blessés de la police nationale.
Pour leur permettre, s'ils n'ont pas encore repris le travail, de reprendre l'activité dans de bonnes conditions. S'ils ont déjà repris, c'est surtout un temps de reconnaissance de la part de l'institution.
Depuis le début de l'année, déjà 900 fonctionnaires blessés ont été accompagnés.
Reportage exclusif pour Europe 1 de Clément Barguin. C'était une icône de la bossa nova. Astrud Gilberto s'est éteinte hier à 83 ans. De cette chanteuse brésilienne, on retient surtout une reprise qui a fait le tour du monde. En 1963, elle enregistre le standard Garota d'Ipanema d'Antonio Carlos Jobim et Vinicius de Moraes. En anglais, il devient l'indémodable The Girl from Ipanema. The Girl from Ipanema, la voix d'Astrud Gilberto qui nous a quitté hier, et le saxophone de l'américain Stan Getz qu'on entendra plus tard.
Stan Getz.
Oh oui, pardon.
Allez, Roland Garros.
Vous avez bien raison.
Roland Garros, l'événement tennis est sur Europe 1.
Ah, et quelle démonstration hier soir sur le court Philippe Châtrier. Carlos Alcaraz, le numéro 1 mondial, a balayé en 2 heures la tête de série numéro 5, le grec Stefanos Tsitsipas.
Mais le monstre espagnol qui prend ainsi son ticket pour la demi-finale de Roland Garros vendredi, affiche de rêve une finale avant l'heure contre Novak Djokovic. Choc générationnel, c'est la première fois que le jeune espagnol est dans le dernier carré porte d'Auteuil. Face à lui, le champion serbe jouera sa 45e demi-finale de Grand Chelem. Eh oui.
Oh là là, et ben on va y revenir dans 20 minutes avec le journal de Roland Garros signé tous les matins sur Europe 1 jusqu'à la fin du tournoi. Europe 1 Radio officiel, le journal de Roland Garros part avec Axel May. Merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journal. Il est 8h10.
Et juste après le journal de Roland Garros, ce sont les signatures d'Europe 1 après 8h30.
Gaspard Proust sera là avec nous. Emmanuel Ducrot nous parlera de cette vague d'arrestations dans les milieux de l'écologie radicale. Ce sera juste après l'invité politique d'Europe 1 matin, Eric Woerth, est au micro de Sonia Mabrouk dans un instant.